France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Entre dramatisation et coup de pression, Sébastien Lecornu agite le spectre d'une France privée de budget pour la sécurité sociale. Le Premier ministre inquiet avant le vote des députés sur la partie recette du texte. La droite conteste la hausse de la CSG et ses voix sont indispensables à l'adoption du budget. Le parquet de Rennes classe sans suite 4 plaintes de manifestants blessés à Sainte-Soline, mais il ouvre une information judiciaire sur les tirs tendus des gendarmes le 25 mars 2023. Le Soudan s'enfonce dans le chaos humanitaire. Des centaines d'enfants privés de leurs parents échouent dans des camps de réfugiés. Témoignage dans ce journal avec Étienne Monin. À 18h15, maire pour quoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire avant les élections municipales. Aujourd'hui, la difficile gestion des cimetières avec l'exemple du Puy en Velay. Sébastien Lecornu a donc choisi de dramatiser l'enjeu du vote sur le budget de la Sécu. Les députés doivent se prononcer d'ici ce soir sur la partie recette du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et le Premier ministre envisage publiquement l'échec du texte. Il y a 2 jours, il a demandé par courrier au directeur de la Sécu d'évaluer les conséquences d'une absence ou d'un retard de budget. Et cet après-midi à l'Assemblée, Sébastien Lecornu a pris la parole à l'ouverture de la séance consacrée à la deuxième lecture du PLFSS.
Est-ce qu'il y a un schéma dans lequel nous pouvons nous permettre qu'il n'y ait pas de projet de loi de finances pour la sécurité sociale ? La réponse est non. Et j'ai saisi les différentes administrations il y a de ça plusieurs jours pour avoir une étude d'impact précise, complète, sur l'absence de PLFSS, qui serait un cas inédit, puisque je vous rappelle que cette année, il n'y a pas eu de PLFSS seulement pendant 2 à 3 mois. Évidemment, on se projette dans une perspective dans laquelle il n'y aurait aucune loi de finances pour la Sécu pour une année entière. Et donc, je souhaite qu'il soit communiqué à l'ensemble de la représentation nationale l'étude d'impact en l'absence de projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui nous amènerait, je cite, à une perte de contrôle total du pilotage de la sécurité sociale qui nous emmènerait à 29 ou 30 milliards d'euros de déficit pour l'année prochaine. Et celles et ceux qui sont attachés à la responsabilité, à la résorption du déficit, à notre souveraineté, ne peuvent pas dire « Eh bien, rejetons le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, ça fera 30 milliards d'euros de déficit et on réglera ça plus tard ».
Voilà pour cet appel à la responsabilité lancé par le Premier ministre, adressé principalement à la droite, car si le budget de la Sécu pourrait être rejeté, c'est parce que LR et Horizon menacent de ne pas le voter. Les deux partis insistent sur plusieurs points de blocage, à commencer par la CSG sur le capital. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir.
Le PS exige une hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital. La droite la refuse, d'où le risque d'impasse budgétaire, Rosalie.
Oui, les socialistes l'ont introduit par amendement dès la première lecture et l'Assemblée a alors adopté l'augmentation d'1,4 point de la taxation des revenus du capital, loyer, assurance vie, dividendes. Elle permet, selon ses défenseurs, de faire entrer pas loin de 3 milliards d'euros dans les caisses et de financer à long terme les besoins de la sécurité sociale. Le Sénat, sans surprise, n'en a pas voulu. La mesure a été supprimée. Elle revient là, en cette fin d'après-midi, à l'occasion de cette deuxième lecture au Palais Bourbon. Le PS en fait toujours une exigence. Mais à droite, on maintient tout autant l'opposition à cette hausse. Ligne rouge pour les députés Horizon d'Édouard Philippe. Les LR ne voteront pas un budget dans lequel il y a des augmentations d'impôts, dit aussi leur patron à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Et côté gouvernement, on mesure bien le potentiel explosif de cette disposition. Le Premier ministre lui-même s'est emparé du sujet dès hier dans l'hémicycle. Sébastien Lecornu a assuré ne pas souhaiter que les petits épargnants soient touchés. Il a demandé tout à l'heure, juste avant qu'on ne passe aux amendements, concerné une prolongation de la suspension de séance, sans doute pour mener des discussions parallèles avec des députés, histoire de tenter de trouver un terrain d'entente. Parmi les pistes évoquées, une hausse limitée de la CSG à 1 point, par exemple, voire un retrait total de la mesure. La porte-parole du gouvernement ne l'écartait pas totalement il y a encore quelques heures. Si un autre dispositif venait compenser les recettes envisagées.
Merci Rosalie Lafarge pour ce décryptage. La justice a annoncé aujourd'hui deux décisions importantes sur la manifestation interdite de Sainte-Soline contre les méga-bassines. D'un côté, le parquet de Rennes a décidé de classer l'enquête sur les soupçons de violence commises par des gendarmes. De l'autre, il ouvre une information judiciaire sur les tirs tendus des forces de l'ordre contre les manifestants, et cela quelques semaines après les vidéos révélées par Mediapart et Libération. Yannick Falt, la première décision intervient plus de 2 ans et demi après la manifestation du 25 mars 2023.
L'enquête est classée sans suite pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique concernant les blessures de 4 manifestants qui ont porté plainte peu de temps après les faits, une femme et 3 hommes âgés de 21 à 35 ans. Aujourd'hui, décision du parquet de Rennes qui chapeaute ses investigations sur les affrontements de Sainte-Soline. Classement sans suite pour 3 raisons selon le procureur Frédéric Théier, soit parce que les blessures font suite à des tirs qualifiés de réglementaires, tirs de grenades, lacrymogènes ou de désencerclement, soit parce que les gendarmes étaient en situation de légitime défense, soit parce que l'auteur du tir n'a pas pu être identifié. L'enquête est également classée sans suite pour non-assistance à personne en danger. Mais les investigations vont donc se poursuivre sur les tirs tendus, pratique interdite pour les grenades, avec davantage de moyens d'enquête, l'ouverture d'une information judiciaire. 1 mois après les vidéos accablantes diffusées par Libération et Mediapart, des juges d'instruction vont donc désormais piloter ces investigations sur les tirs tendus qui pourraient être assimilés à des violences volontaires, selon le procureur de Rennes.
Explication signée Yannick Falt concernant le classement sans suite. L'avocate des 4 manifestants blessés ne veut pas en rester là. Sur France Info, Chloé Chalot annonce une nouvelle plainte avec constitution de partie civile afin, dit-elle, de solliciter nous-mêmes les investigations que le procureur de la République refuse de diligenter. Fin de citation. Le Théâtre du Soleil, la célèbre troupe d'Ariane Mnouchkine, est ce soir dans le collimateur du gouvernement. Le ministère de la Culture exige un audit complet de l'institution menée par un organisme extérieur. C'est la conséquence des nouvelles accusations de violences sexuelles visant le théâtre. Mediapart a publié dimanche les témoignages de 8 femmes qui ont travaillé au sein de la troupe. Fiona Mogadam, cet audit réclamé par la ministre Rachida Dati, doit débuter dans la semaine du 15 décembre.
Cet audit doit porter sur les conditions d'emploi et de travail ainsi que les modalités d'accueil de bénévoles au sein du Théâtre du Soleil et le résultat conditionnera le versement de la subvention du ministère d'un peu moins de 2 millions d'euros par an. L'affaire a débuté fin mars dernier avec le témoignage de la comédienne Agathe Pujol devant la commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. Il y a 15 ans, elle a été bénévole au sein du Théâtre du Soleil. Elle était mineure devant la commission. Elle a raconté avoir été victime d'une tentative de viol par un comédien. Elle décrit une pression sexuelle constante au sein de la troupe. Dans son enquête publiée dimanche, Mediapart a rencontré 8 femmes qui étaient salariées ou bénévoles, parfois mineures, entre 2010 et cette année. Toutes disent avoir subi des violences sexistes ou sexuelles, accusant 2 comédiens qui nient les faits. Ils ne font plus partie de la troupe aujourd'hui, mais leurs accusatrices dénoncent l'indulgence et la protection dont ils auraient bénéficié. Suite aux déclarations d'Agathe Pujol, une enquête interne a été mise en place au théâtre. Conclusion transmise à la justice, qui a également ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Dans un communiqué, le Théâtre du Soleil dit ne pas nier l'extrême gravité des crimes dénoncés, mais estime infondées les allégations de sectarisme et d'abus systémiques, qui d'après lui ne visent qu'à le salir et le détruire. Victimes et mises en cause seront entendues prochainement par les enquêteurs, ajoute également le théâtre, qui compte sur les juges pour faire émerger la vérité, loin de toute furie médiatique, peut-on encore lire.
Jusqu'où ira la catastrophe humanitaire au Soudan, ravagé par la guerre civile? L'avancée des troupes paramilitaires a jeté des centaines d'enfants sur les routes, beaucoup échouent dans des camps de réfugiés sans leurs parents. Depuis la chute de la ville d'El Fasher au Darfour, désormais aux mains des milices, entre 200 et 400 enfants sont arrivés dans le camp de Dawila, Étienne Monin.
Dans l'une des 2 écoles gérées par le Conseil norvégien pour les réfugiés, dans le camp de Tawila, on voit des enfants tassés sous une tente de drap coloré. Ils ne sont pas tous orphelins, mais globalement, depuis la chute de la ville d'El Fasher, les familles sont divisées ou amputées, dit Mathilde Vu, de l'ONG norvégienne contactée par WhatsApp.
Il y a vraiment beaucoup d'enfants séparés, il y a beaucoup de familles séparées. Parfois, les familles sont obligées de prendre plusieurs routes pour fuir Al-Fasher et finalement se perdent en route, sont attaquées en route. sont détenus en route et n'arrivent pas entières à Taouila.
D'après l'UNICEF, 230 enfants sont arrivés sur leurs parents ces dernières semaines. 120 sont restés orphelins, victimes de la violence débridée des milices, explique David Sézikeye de l'UNICEF.
Les enfants vraiment sont dans un état terrible. Ils ont vu les atroces, les gens qui étaient tués, ou bien leurs parents tués, ou bien leurs voisins. Quand tu les regardes dans les yeux, ils ont peur, et ils ne voient pas l'avenir.
Ces enfants ne restent pas seuls, ils sont pris en charge par les responsables de communautés dans le camp, adoptés en quelque sorte par les autres familles.
Ce qu'on essaye d'éviter, c'est d'avoir des centres, des enfants non accompagnés, ou des orphelinats. C'est la raison pour laquelle on essaye de les mettre dans une famille quelconque.
Les ONG parviennent aussi à réunifier certaines familles malgré l'insécurité sur les routes et l'absence de réseau téléphonique.
Et ce soir, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, appelle les belligérants à cesser immédiatement les combats dans le sud du Soudan. Il affirme craindre une nouvelle vague d'atrocités après les massacres d'El Fasher. Une nouvelle crise aujourd'hui entre Londres et Moscou. Le Royaume-Uni convoque l'ambassadeur russe et il déclare Vladimir Poutine responsable sur le plan moral de la mort d'une citoyenne britannique, Dawn Sturges, victime collatérale de la tentative d'empoisonnement qui visait l'agent double Sergueï Skripal il y a 7 ans. Bonsoir Myriam Roch-Massarin.
Bonsoir.
L'enquête publique ouverte il y a 1 an par le Royaume-Uni conclut aujourd'hui que Dawn Sturges est la victime innocente d'une tentative d'assassinat menée par les agents russes.
Oui, victime innocente, car cette mère de famille de 44 ans n'était pas la cible des services secrets de Moscou. C'est bien Sergueï Skripal, ex-agent double russe, et sa fille Yulia qui étaient visées. Eux ont survécu. Le 4 mars 2018, la police britannique les retrouve tous les deux inconscients sur un banc de Salisbury, petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Ils viennent d'être victimes d'une tentative d'empoisonnement au Novichok, une substance neurotoxique. 4 mois plus tard, à 15 km de là, Dawn Sturges se parfume avec un flacon trouvé par son compagnon dans une poubelle. Mais elle tombe gravement malade. Elle meurt quelques jours plus tard. La fiole remplie de Novichok était en réalité celle qui avait été utilisée pour empoisonner Skripal.
À l'époque, Myriam, l'affaire survenue avant la guerre en Ukraine avait provoqué une grave crise diplomatique.
Et 7 ans plus tard, Londres prend de nouvelles sanctions, cette fois contre l'intégralité du GRU, le renseignement militaire russe, sans pour autant préciser leurs contours. Pour l'instant, dans cette affaire, seuls 3 agents de l'espionnage russe sont sous le coup de mandat d'arrêt. La Russie, elle, a toujours nié son implication. Elle rejette aujourd'hui les sanctions imposées par le Royaume-Uni.
Myriam Roch-Massarin, rédaction internationale de Radio France. Aux États-Unis, le ministre de la Défense, Pete Hegseth, est-il en train de devenir le maillon faible de l'administration Trump ? Critiqué par l'opposition démocrate, le chef du Pentagone l'est aussi dans son propre camp, car il enchaîne les polémiques sur la légalité douteuse des frappes américaines sur le narcotrafic, ou bien sur sa légèreté dans l'usage du secret défense, Agathe Mahué.
C'est un organe indépendant au sein du Pentagone qui révèle que le secrétaire à la Défense a potentiellement mis les troupes américaines en danger au début de l'année 2025 lors d'une campagne militaire lancée au Yémen contre les rebelles houthis. Pete Hegseth avait alors utilisé l'application de messagerie Signal pour échanger au sujet de ces frappes et un journaliste du New York Times avait été ajouté par mégarde à un groupe de discussion. L'enquête souligne aujourd'hui que ces informations auraient pu exposer les forces militaires impliquées si elles avaient été divulguées à un adversaire. De quoi fragiliser le ministre qui peine aussi à justifier une opération menée en septembre par les Américains au large du Venezuela où un navire soupçonné de trafic de drogue a été frappé 2 fois, la deuxième salve ayant tué des survivants qui s'accrochaient au bateau en flammes en train de couler. Soupçon de crime de guerre, une enquête plus poussée est d'ailleurs réclamée par des parlementaires démocrates et républicains. L'amiral qui a ordonné cette deuxième frappe sous l'autorité de Pete Hegseth doit être entendu aujourd'hui. Certains ici redoutent qu'il ne serve de fusible dans cette affaire pour éviter le départ du secrétaire à la Défense.
Agathe Mahué, correspondante de France Culture à Atlanta aux États-Unis. Et pendant ce temps-là, Donald Trump accueille ce soir à la Maison-Blanche ses homologues congolais et rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Le Kagame. Ils doivent ratifier un accord de paix censé mettre fin au combat dans l'est de la République démocratique du Congo. À quelques heures de cette cérémonie à Washington, des affrontements ont encore opposé aujourd'hui les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à l'armée congolaise. Le temps demain, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par l'ouest, par la Bretagne et la Vendée, avant de gagner l'est du pays. Il neigera en montagne à partir de 1200 mètres. Les températures minimales iront de 1 à 5 degrés en général. L'après-midi, il fera entre 6 et 15 degrés du nord au sud.